Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu local,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30, des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 14 février, il est 8h30, je ne dirai rien sur cette date du 14 de février, c'est commercial et vous le savez très bien. Il va nous accompagner pendant 3 jours, salut Malone.
Salut.
Quel plaisir de t'avoir parmi nous, tu es en 3ème, tu passes, alors il faut que tu m'expliques, tu passes tes vacances en stage.
Bah, je passe mes vacances en stage.
Ouais, t'es en 3ème, comment ça se passe? Tout va bien pour toi?
Bah, la 3ème, ça se passe bien, c'est amusant et...
Pas trop voilà. Envie d'être en seconde?
Non.
En tout cas, bienvenue, on va bien se marrer pendant ces 3 jours, on a plein de choses à te faire faire, ça va être super drôle. Allez, au programme de cette matinale, on inverse interview et reportage ce matin. Dans un instant, grâce à Jacqueline, animatrice sur cette antenne du Chaudron des Découvertes et de Compte-Gouttes, eh bien, on fera un retour sur le festival Floracopoli. La première partie, ce sera juste après l'édito. Et en deuxième partie d'émission, nous retrouverons dans ce studio, ils nous rejoindront Léa Jartou et Stéphane Espinasse pour parler de l'Union départementale des affaires familiales, l'UDAF. Ce sera tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab et c'est parti, vous êtes bien sur Barthas, on y va pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. On a évidemment entendu beaucoup parler de Robert Badinter, un avocat incroyable, ardent défenseur de l'abolition de la peine de mort, dont il fut l'instigateur en France au début des années 80, mais aussi à l'origine de la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Je ne saurais que trop vous conseiller ses livres « L'abolition » ou encore « L'exécution » sur l'affaire Bontemps, en espérant que la peine de mort ne revienne jamais en France. Grand bonhomme, donc, j'en conviens, et les hommages qui affluent depuis sa disparition sont tout à fait normaux. Mais... le même jour, il y a un autre grand bonhomme qui s'en est allé. C'est sans doute l'un des plus grands chefs d'orchestre qui ait pu exister au XXe et au XXIe siècle. Il était japonais et c'était une figure du pays du soleil levant et du matin tranquille. J'ai eu la chance de le voir diriger l'un des plus grands philharmoniques du monde, le Philharmonique de Berlin. Déjà, cet orchestre, faut le savoir, c'est le seul au monde où ce sont les musiciens qui choisissent tous les deux ans leur chef. La particularité de la salle du Philharmonique de Berlin, à Berlin donc, c'est qu'il y a une trentaine de place derrière l'orchestre. Et me voilà donc, à 20 ans à peine, face à ce petit bonhomme au charisme immense, Seiji Ozawa. Musicien moi-même, je vous assure que j'hallucine sur sa manière de diriger. Pas de grands gestes, pas d'envolée, non, les deux mains scotchées sur sa poitrine, de petits gestes précis et délicats. Et pourtant, l'orchestre virevolte sur les partitions de Mozart ou encore Brahms et même Beethoven. J'ai compris qu'en fait, tout joue à l'entraînement, aux répétitions. Si les partitions sont les mêmes pour tous les orchestres du monde, bien sûr, c'est au chef de décider du tempo, plus ou moins rapide, de l'intensité des nuances, de l'interprétation. Et j'avais jamais entendu Mozart jouer aussi bien, j'en ai encore des frissons quand je vous en parle. J'ai réellement compris ce jour-là pourquoi c'était l'un des plus grands chefs du monde. Sur Arte ou sur YouTube, vous pouvez voir des vidéos de sa direction. Vous allez juste passer un moment avec ce maestro génial du pays du soleil levant et des matins tranquilles. C'est dingue, mais ça le définit tout à fait. Ciao l'artiste, ciao, sayonara, Seiji Ozawa. Un extrait de Ludwig van Beethoven, le troisième mouvement du Quatuor numéro 16 en Fa majeur, opus 135, dirigé par Seiji Ozawa. Allez voir cette vidéo. Je ne peux pas la mettre en entier, évidemment, parce que ça dure 35 minutes, donc on ne va peut-être pas le faire. Vous êtes bien sur Radio Barthas et on change d'ambiance. Retour grâce à Jacqueline au festival Floracopoli. Voici la première partie de son reportage entre l'Encrier, la salle Place Paul Comte et la pompe. C'est parti!
Je suis à la salle Paul Comte en compagnie de Céline qui va gérer toute la journée, si j'ai bien compris. Dis-moi ce que tu vas gérer.
Je vais animer l'escape game, sauf qu'il peut, sur les perturbateurs endocriniens.
Et c'est quoi un escape game, si tu peux résumer, bien sûr?
C'est une façon ludique d'approcher les choses. En l'occurrence, ça, c'est un escape game pédagogique. Donc, l'idée, c'est de parler des perturbateurs endocriniens. Et on a trouvé des moyens un peu joyeux pour amener ce sujet qui ne l'est pas, franchement.
Et tu t'adresses à des gens de à partir de quel âge ?
On l'a joué pour les plus jeunes. Là, on va le jouer au collège pour les troisièmes. Sinon, en général, la cible, c'est ados, jeunes adultes ou adultes moins jeunes.
Et en gros, ça dure combien de temps ?
Ça dure 2 heures.
Qu'est-ce que tu peux en dire plus, en tout cas sur le sujet que tu abordes ?
Alors, le sujet des perturbateurs endocriniens.
En résumé,
on a un espèce de chef d'orchestre physiologique qui s'appelle le système hormonal. Et il se trouve que ce système hormonal, donc celui qui produit nos hormones, est aujourd'hui perturbé par des substances issues du pétrole et qui se trouvent dans pas mal d'objets de notre environnement quotidien. Il se trouve que on sait aujourd'hui que ces molécules souvent du plastique ou de pétrochimie rentrent dans nos corps et se font passer pour des hormones naturelles et elles viennent donc perturber les messages que les hormones passeraient normalement pour le bon fonctionnement de notre santé.
Voilà, tout ça est extrêmement rassurant. Je te souhaite une bonne journée, puis merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne séance.
Avec grand plaisir, merci.
Je suis à l'Encrier et je suis auprès de Nathalie, qui fait partie du collectif Égalité Femmes-Hommes 48. C'est bien ça ?
C'est exactement ça.
Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce jeu ?
Alors, on propose plusieurs jeux. Celui-ci, c'est le principe du qui est-ce qu'on a adapté, féminisé, voilà, on va dire comme ça. Et on l'a mis en format géant pour que on puisse éventuellement y jouer par deux, enfin deux de chaque côté, hein, c'est le principe. Il faut donc arriver à trouver quel personnage a été choisi par son adversaire en essayant de déterminer quelle est l'activité, ce qui a fait que ce personnage féminin est connu ou aurait mérité d'être connu. Voilà.
Et ce collectif, en dehors de Floracopoli, existe et fait des actions ?
Alors oui, il a été créé il y a environ 4 ans, plus à l'occasion des journées de défense des droits des femmes. Donc c'était sur un 8 mars il y a 4 ans. Et il s'inscrit maintenant dans toutes ces journées d'action pour mettre en avant les droits des femmes ou les violences faites aux femmes. Donc l'objectif est d'informer, de débattre, de sensibiliser, de permettre des échanges. Donc par le biais de jeux, ça c'était notre dernière nouveauté. Mais aussi projection débat, manifestation. On a organisé le 8 mars l'année dernière. On va dans les cinémas de Lozère, pas qu'Amande. Hein, et notre objectif aussi, c'est d'aller dans les coins les plus reculés de Lozère. On est allé à Masdeval pour une projection cinéma. Voilà. Et on a envie que les citoyens échangent, débattent et prennent conscience du chemin qu'il y a encore à faire pour arriver à une égalité, une juste égalité femmes-hommes.
Et donc, le qui est-ce révèle un peu ce genre de problématique, en fait ?
Alors, il met en avant des femmes qui sont méconnues, alors que souvent dans les thématiques qu'on aborde, ce sont les hommes qui sont connus. Donc, des chercheurs, des spationautes, des sportifs, des femmes politiques. Par exemple, sur une chercheuse qui a découvert le VIH du sida, on parle plutôt du professeur Montagnier, mais pas de Madame Barentine-Houssi. Alors qu'ils étaient trois, il y avait deux hommes, une femme. Elle a été primée comme les deux hommes chercheurs, mais elle, on en parle beaucoup moins. Voilà, c'était l'idée de rétablir un petit peu la place des femmes femmes dans le monde, puisqu'on est à 50-50. Alors, on pourrait peut-être laisser 50% des places pour les femmes qui se sont révélées particulières dans leur domaine, que ce soit le sport, la politique, le cinéma, le théâtre, la recherche. Voilà. Et ça nous semblait rétablir une vérité.
Et ce jeu, vous l'avez déjà expérimenté ou c'est une première ?
Alors, on l'a expérimenté entre nous parce qu'il existe en fait en format papier. On l'a trouvé, nous, auprès d'un prestataire qui s'appelle Comprendre pour Agir. Et il nous a semblé pas très facile à utiliser quand on veut l'utiliser justement dans des soirées un peu plus collectives. Et on a choisi aussi d'autres personnages puisque c'était beaucoup plus cosmopolite. On s'est dit que dans un premier temps, on allait essayer de se recentrer plutôt sur des femmes françaises, même si on en a quelques autres qui ont bien marqué l'avancée du féminisme et des droits des femmes. Mais non, en public, on ne l'a pas expérimenté encore. On avait déjà fait une soirée jeu ici, à l'Encrier, et on avait fait pigeonne-pigeonne et un quiz de l'égalité qu'on va proposer aussi en parallèle selon si on a un public qui s'y prête.
Pigeonne-pigeonne, c'est quoi ?
Alors, c'est un jeu qu'on a détourné, là aussi, qui existe. En fait, il y a une affirmation qui demande à être complétée par une réponse ou alors je n'ai pas à l'esprit tout de suite. Si, par exemple, c'est le Marvejolemande s'est distingué dès sa création parce que... Et là, il y a une seule affirmation qui est proposée par nous. Et l'équipe doit proposer deux autres affirmations qui sembleraient aussi justes que la vraie affirmation, la vraie réponse. Et après, l'équipe adverse doit deviner quelle affirmation est la plus juste. Et on a un capital de boutons. Et si on a une bonne réponse, on garde ses boutons. Si on a une mauvaise réponse, on perd ses boutons. Et c'est celui qui n'a plus de boutons qui a perdu à la fin. Donc, c'est deux équipes qui s'affrontent sur des affirmations à compléter. On est plus acteur dans ce jeu-là. Voilà. On incite à chercher en équipe des réponses plausibles. Et celui-là, on l'a expérimenté fin septembre. On s'est bien amusé. Voilà, on s'est bien amusé.
Et pour revenir au qui est-ce, vous le proposez en gros à partir de quel âge ?
Alors, il faut savoir lire. Voilà. Mais si on a un. Comme c'est des pictogrammes, une fois que les pictogrammes ont été expliqués et qu'on en prend l'habitude, parce que même pour des gens qui savent lire, même avec même que des pictogrammes, il y en a un certain nombre, donc c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude du pictogramme. C'est accessible même aux enfants. En tout cas, c'est notre objectif. Nous, on a vraiment envie. Bien sûr, de toucher les adultes, parce qu'il y a encore du boulot au niveau des adultes. Mais on est persuadé, et notre collectif œuvre beaucoup depuis le plus jeune âge, parce qu'on est persuadé que c'est par l'éducation et la lutte contre les stéréotypes qui s'installent dès le plus jeune âge qu'il faut revenir à une société plus égalitaire en termes femmes-hommes. Voilà. Donc oui... moi je dirais 8-10 ans, on peut déjà faire jouer des enfants qui connaissent très bien le principe de qui est-ce.
Eh bien, merci et puis bonne journée à l'Encrier. Toujours à l'Encrier, je suis sur une nouvelle table et je rencontre quelqu'un que je ne connais pas.
Donc c'est Eddy.
Et Eddy, tu fais du jeu de rôle.
Oui, c'est ça, du jeu de rôle. Donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste à vivre une aventure autour d'une table. On rencontre des personnes. Donc, il y a ce qu'on appelle un meneur de jeu qui connaît l'aventure, qui va proposer des situations à d'autres joueurs, de 4 à 5 personnes, on va dire, ce qui est assez confortable. Et ils vont jouer des personnages, donc des rôles. Et ces personnages-là vont essayer de répondre à ce que propose le maître de jeu par rapport à un scénario de prévu. Donc
Il va se passer que les personnages vont avoir des objectifs à atteindre, à accomplir. Ils vont peut-être réussir ou non. Ils vont peut-être aller contre ce qui est proposé par le maître de jeu ou non, ou aller dans une autre piste. Et en fait, tout se fait au travers d'un dialogue. Et si le dialogue n'est pas possible, il existe des règles. Et on va lancer des dés. Et puis, si on atteint une certaine valeur ou pas, ça va être réussi ou plus ou moins réussi ou plus ou moins échoué. Et par rapport à ce qui est, à ce qui se passe, les joueurs doivent réagir. Ils doivent proposer quelque chose. Donc voilà. Alors, il existe tout un tas d'univers. Ça va, maintenant, ça va de la préhistoire. On peut même jouer des extraterrestres, hein, si on veut, jusqu'à au futur science-fiction le plus loin possible d'ici, quoi. Voilà, donc. Et on peut jouer des. Excusez-moi. On peut jouer aussi des périodes historiques aussi.
Et ça s'adresse sur quelle tranche d'âge ?
Alors, moi, quand j'ai commencé, c'était plutôt à partir de 14-15 ans. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai commencé. Aujourd'hui, vers 10-12 ans, il y a des jeux plutôt adaptés. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est complètement social. C'est-à-dire qu'on est en pleine interaction, négociation, ça peut être de la diplomatie ou non, pour essayer de faire en sorte qu'on vive une aventure. En fait, il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas vraiment de perdant. C'est même si les personnages ont la sensation ou qui disent ouais, on a fait une super aventure. Et le maître de jeu, lui, n'est pas là pour s'opposer aux joueurs. Il est là pour les accompagner et faire en sorte justement, c'est plus un animateur qu'un juge intraitable. Il va essayer de faire en sorte que l'aventure soit agréable pour les joueurs et pour le maître de jeu aussi, hein, parce que bon, c'est pas forcément.
Et concrètement, parce que là je vois qu'il y a des dés par exemple, il y a du matériel.
Alors il y a du matériel. Alors ce qui fait, après on peut inventer soi-même ses propres règles. Et sinon, pour gérer tout ce qui est hasard et éviter de décider, toi t'as si, toi t'as échoué comme ça, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc on fait intervenir du hasard en lançant des dés, donc il faut un peu de dés. Alors on peut avoir des dés à 4 faces, 6 faces, 8 faces, 10 faces, 12 faces, 20 faces, etc. Bon, maintenant, aujourd'hui, avec les applications et les téléphones, bon, ça se trouve assez facilement. Ça repose sur aussi des feuilles de personnages où il y a des parties qui sont numériques, c'est-à-dire il y a des nombres, des valeurs, et en dehors de comment je dirais de décisions arbitraires. Voilà. C'est les dés qui ont décidé, ou alors on peut répartir des points, mais il existe tout un tas de systèmes, et on a cette valeur-là. Et c'est pas le joueur qui décide, oui, bah, j'ai réussi à mettre à terre un ennemi, ouvrir une porte qui était fermée. Ce sont les dés qui vont déterminer en fonction des valeurs qu'il y a sur les fiches de personnages. Donc ce sont des caractéristiques, hein, ça peut être force, dextérité, pour ouvrir des portes qu'il faut crocheter. On peut utiliser soit l'intelligence, soit la dextérité, il y a une valeur, on lance des dés et cette valeur, la valeur des dés doit être inférieure ou supérieure pour réussir ou échouer. Voilà. Et donc, oui.
Alors la question simplement, c'est là dans le cadre de Floracopoli, quels sont les thèmes là qui vont être abordés ?
Alors moi je vais proposer trois univers, donc du fantastique qui fait un peu peur. Voilà. Alors, je ne sais pas quel public je vais recevoir, ce n'est pas encore déterminé, mais bon, je ne prévois pas des choses très, très rudes à subir quand même. Il y a du médiéval fantastique. Donc c'est tout un monde où la ressource c'est le médiéval, mais avec tout ce qui était merveilleux, les histoires, les contes, les mythes, tout ce qui est sorcières, dragons, licornes. On peut avoir d'autres types d'univers, dans le médiéval fantastique aussi, on peut avoir le Seigneur des Anneaux de Tolkien, et de la science-fiction. Donc voilà. Et donc, et là aujourd'hui, puisque je suis juste à côté de la table de l'égalité homme-femme, là, où vous venez juste faire l'interview, dans les personnages, je vais imposer en fait des rôles genrés ou sexués, on va dire. d'un point de vue asexué, d'un point de vue biologique, mais genré d'un point de vue social. Et en fait, peu importe les personnes que je vais trouver en face de moi, ils vont devoir choisir une liste de personnages et devoir les jouer. Et dans le scénario de science-fiction, c'est automatiquement 6 femmes qui vont jouer des biologistes, médecins, mathématiciens, militaires, androïdes même. Voilà. Et pourquoi ? Parce que le jeu de rôle, alors moins maintenant, mais pendant très longtemps, c'était un milieu très masculin. Voilà. Comme les mathématiques ont été considérées comme un milieu masculin, les femmes n'avaient pas le droit à accès. Mais bon, on a vu avec des films, des romans et des reportages qu'en fait la NASA avait utilisé des femmes noires pour faire des calculs, pour etc. Donc on essaye aussi. Ça c'est l'aspect éducation du jeu. C'est-à-dire que je vais avoir une responsabilité des représentations. Parce qu'on va jouer un rôle, un personnage, et là je vais les stresser un peu sur certaines situations où en fait je suis un homme, je joue une femme, qu'est-ce qui va se passer? Je suis un homme et il y a une femme qui joue une femme et elle va me stresser parce que je vais leur donner des indications et des objectifs qui vont faire en sorte qu'ils vont devoir prendre des décisions et qui vont les déstabiliser un peu. Alors, il ne s'agit pas de dire vous avez tort, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est juste remettre en question des principes sans forcément changer d'état d'esprit. C'est pas le but, c'est qu'on se pose des questions et à chacun de trouver des réponses. Bon, vous avez deviné ce vers quoi je tends quand même, mais bon, voilà.
En tout cas, ça me paraît passionnant. Et puis, je te souhaite une bonne journée avec des bons participants.
Merci beaucoup.
Alors, nous sommes dimanche, c'est toujours Flora Coppoli, et je suis à la pompe et en compagnie de Jean-Christophe. Jean-Christophe qui va me parler d'un truc que je ne connais pas du tout et qui s'appelle Ticket Gagnant. Donc je vais lui laisser la parole et nous expliquer comment il s'est lancé et avec qui dans cette histoire.
Bonjour, alors je suis Jean-Christophe Bouvier, je viens de Haute-Loire, Saint-Didier-en-Velay, pas très loin de Saint-Étienne. Et donc on m'a invité pour Flora Coppoli pour plusieurs choses, donc venir présenter mon ticket gagnant. Donc ça c'est un petit jeu de société de Paris Hippique. Alors je l'ai développé avec ma fille qui se trouve être jockey. Elle a 21 ans, elle est jockey depuis 3 ans. Donc elle fait des courses, on peut la suivre à la télé sur Equidia. Et un jour je l'avais accompagnée sur une course à Montier-en-Der, ça c'est dans l'est de la France, pas très loin de Reims. Et comme il y avait 500, elle avait 18 ans, et il y avait 500 km aller, 500 km retour, je m'étais dit je l'accompagne, parce qu'elle doit courir quand même, c'est un sport assez physique. Et elle a gagné. Elle a gagné la course, donc on était tout joyeux au retour dans la voiture. On s'est mis à imaginer ce petit jeu ticket gagnant.
Excusez-nous, il y a aussi les chiens qui ont envie de s'exprimer à la pompe, donc on va les laisser finir et on va reprendre avec Jean-Christophe. Voilà, il y a Arthur qui vient d'intervenir sur... Bonjour Hulot. On continue, on reprend.
Alors voilà, comme dans la famille, avec mes filles, on aime jouer. On a imaginé ce petit jeu de Paris Hippique qui soit accessible aux familles, au plus grand nombre en fait. À partir de 7 ans, on peut y jouer. Donc c'est un petit jeu, on a des cartes en main. Avec ces cartes, on va pouvoir déplacer les chevaux. Et au vu de ces cartes, on va faire un pronostic. On parle de pronostic plutôt que de Paris parce qu'il n'y a pas d'argent dans le jeu. On n'a pas voulu mettre d'argent dedans. Et puis voilà, sur un certain nombre de courses, on voit qui est le meilleur pronostiqueur de la soirée. Donc c'est un jeu bien familial. Alors ce qui me plaît beaucoup, c'est quand des familles complètes y jouent. Ça va des enfants aux grands-parents, en passant par les petits-enfants. Et je me suis lancé tout seul dans l'édition. Donc je suis mon propre éditeur, j'ai monté une petite société. J'ai un distributeur, il y a environ 150 boutiques en France qui suivent le jeu.
Et ce jeu, il dure combien de temps? Parce que moi, c'est un truc qui me... Je vois des gens acharnés, là, depuis hier. Il dure combien de temps, ce jeu?
Ticket gagnant, on peut décider de la longueur des courses, donc faire des parties plus ou moins longues, aller sur des 4 joueurs en 20 minutes, une demi-heure, on peut plier une partie. Et j'ai vu des fans hier qui faisaient des courses très longues, qui étaient assis, ça a duré 45 minutes peut-être. Ils ont voulu faire durer le plaisir, c'est le but. Ça hurlait autour de la table. On retrouve l'ambiance du champ de course, en fait. On fait son pari, on le rate. Bon, généralement, si on a des amis, on les perd à ce moment-là. Parce qu'on peut se faire des crasses, en fait. On peut reculer les chevaux que les autres ont parié. Donc, c'est assez méchant, quand même. Il a l'air gentil, le jeu, mais en fait, il est plus retors qu'il n'en a l'air. Et et ça râle. Alors moi, c'est ce qui me plaît quand je conçois des jeux. C'est pas mon premier jeu, hein. J'ai fait un jeu de course de voiture en 2009 qui s'appelait Rallyman. Personne n'en voulait chez les éditeurs, donc comme mon petit jeu de chevaux, donc je me suis lancé quand même, malgré tout, parce que je fréquente beaucoup les festivals et je présente mes prototypes et je vois quand ça plaît ou pas. J'ai une intime conviction, et après si les gens veulent pas me suivre, enfin les éditeurs, en tout cas moi j'y vais. Donc mon Rallyman, ben, ça s'était bien passé, j'en ai fait 11 000 tout seul, et ensuite des, enfin je les fabrique pas, hein. Je les fais fabriquer dans une usine, mais je me suis occupé de la distribution de mes 11 000, même à l'étranger, aux États-Unis ça avait même pris. Et ensuite un éditeur était venu me chercher après que j'ai tout déblayé le terrain, et maintenant c'est un jeu qui se vend dans le monde entier, traduit dans 10-12 langues. Il se vend en Corée du Sud, en Russie, en Amérique du Sud. Donc j'espère que mon ticket gagnant aura le même parcours. Donc on m'avait fait comprendre que les chevaux c'était pas terrible, mais comme c'est quand même la passion de ma fille, et j'ai remarqué que c'est un thème qui parle à tout le monde, même si on n'est pas fan, même si on va pas au PMU évidemment.
Ça allait être ma question, quoi. Est-ce que des gens qui connaissent absolument rien en chevaux peuvent prendre du plaisir à ce jeu, en fait?
Alors c'est bien le but. Moi je fais des jeux les plus démocratiques possibles, et dans la règle du jeu, tu vois, j'ai mis un petit lexique hippique qui ne sert à rien pour jouer. Mais c'est pour donner un petit peu de culture, quoi, aux gens, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une casaque? Qu'est-ce que c'est qu'une disqualification? Qu'est-ce qu'on appelle le poteau d'arrivée, placé, une position de serre-fil? Ça, c'est juste pour éduquer un petit peu, pour former un petit peu. Sinon, justement, le jeu, on l'a fait le plus accessible possible. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est marrant, c'est comme ça que ça marche les courses. Ah, bah, c'est bien, c'est sympa. » Le but, c'est vraiment qu'à partir de 8 ans, on le comprenne, on puisse le jouer. C'est pas parce que c'est à partir de 8 ans qu'il est simpliste. Justement, il y a des gros joueurs, ce qu'on appelle le gros joueur, les gens qui ont l'habitude de jouer, qui disaient « Mais dis donc, ton jeu, il a l'air bien gentil, mais là, on peut faire une sacrée stratégie. Là, je peux faire un sacré coup. » Donc, ceux qui creusent un peu se rendent compte qu'il est plus profond qu'il n'en a l'air. Donc là, je suis vraiment ravi quand on me dit ça, parce que c'est le but. C'est-à-dire, on va toucher du novice en jeu, quel que soit son âge, au gros joueur, quoi. Donc là, je me dis, là, c'est bon.
Du coup, ça met en jeu quelles compétences, en fait?
Alors, l'anticipation, un petit peu. On a des cartes pour avancer ses chevaux. Et si on avance trop vite ses chevaux favoris, comme dans les vraies courses, il y a des chances qu'ils finissent pas bien, parce que les autres vont les repérer, ces chevaux-là, et vont tout faire ou pour profiter de votre avance, en se plaçant devant vous ou en reculant votre cheval. Donc il faut savoir sortir ses cartes maîtresses au bon moment, donc pas trop tôt. Tous ceux qui sortent trop tôt se font avoir. Il faut bien observer le jeu des autres, parce qu'on connaît les paris des autres, et on a des cartes qui permettent de se positionner par rapport à certains chevaux. Donc observer la façon de jouer des autres, profiter des autres chevaux, de l'avancement des autres chevaux. Et là, c'est ma fille qui m'a un peu appris ça, parce que moi, je connaissais rien aux courses. Je traîne le PMU de mon village, dont je suis la vedette depuis quelques mois. Donc, c'est depuis quelques mois que je suis alcoolique. Non, j'ai arrêté. Je suis passé à la limonade.
Je ne sais pas si on va passer ça sur Bartas, tout de même, hein. Allez, on continue. Voilà.
Donc, depuis que je traîne les PMU, non, et surtout que je regarde la chaîne Equidia, je vois les courses et je suis surtout les courses de l'intérieur de mes filles et de ma fille. Et c'est là que j'ai vu, elle prépare sa course la veille. Elle me dit, tu vois, papa, tel cheval est le favori, c'est lui que je vais devoir suivre pendant la course. Il faut que je me cale sur ce cheval-là. Et c'est ce qu'elle fait, et parfois ça réussit. Et dans le jeu, c'est un petit peu ça, finalement. On va voir, en fonction de ce que les gens ont parié, il y a peut-être un cheval favori, il y a peut-être un cheval que plusieurs joueurs ont misé. Et on va essayer de se caler sur ce cheval-là. Donc voilà, dans les qualités, ça, l'anticipation, l'observation du jeu des autres.
D'accord. Voilà. Donc, ouvert à tous, là, aujourd'hui, encore. Hein.
Ah oui, carrément. Hein. Donc, il y a une table, là. Donc, on est à la pompe. Hein, ça s'appelle la pompe, ici. Les gens d'ici connaissent. Oui, ouais, voilà. Il y a ça. Et donc, j'ai deux tables à la pompe. Donc, il y a ce ticket gagnant. Donc, vous avez compris, je l'ai dit, il est vendu. Et j'ai un prototype téléphonie. Ça, c'est un jeu que je vais sortir cette année. Donc, c'est un thème plutôt original dans le monde du jeu de société. Pourquoi j'ai pensé à la téléphonie? J'ai des filles, des ados, qui sont tout le temps fourrés sur leur téléphone. Et donc, je me suis dit, ça vaut bien, ça vaut un jeu, ça. Donc, le but du jeu, c'est, vu mon grand âge, j'ai connu l'avant téléphonie mobile et j'ai connu l'après. Et donc, mon jeu se situe à la charnière des années 90-2000. Il n'y a pas de téléphonie mobile en France encore. Ça arrive. Donc, on est tous les joueurs, de 3 à 5 joueurs à la tête d'une société de téléphonie mobile. Là, on a Sphère, on a Kiwi, Mandarine, Riff et Bouvier International. Donc, c'est moi, ça. Et on va devoir implanter des antennes qu'on va acheter aux enchères dans toute la France. Donc, voilà, je prends un joueur. C'est très radiophonique ce que je fais, d'installer des antennes sur le jeu. Et donc, on va installer des antennes sur toute la France. Et à partir de ces antennes, on va émettre d'horribles ondes. Donc, voilà, c'est vraiment l'originalité du jeu, c'est ces ondes qui se posent autour des antennes. Et on va faire croître notre réseau par le nombre des antennes et par le nombre d'ondes qu'on va poser. Et c'est un horrible jeu de capitaliste où il faut finir le plus riche possible. Et à un moment donné, on voit ici, on va être en confrontation parce que notre voisin veut des clients et nous, on veut les mêmes. Et donc, il va falloir qu'on développe l'attractivité de notre réseau pour regarder, voilà, si je pose une onde supplémentaire, moi, je grandis.
Et moi, j'attaque l'autre.
Et j'attaque l'autre. Ah, oui. Donc, c'est un jeu de commerce, un petit peu agressif. C'est-à-dire qu'on essaie de prendre les parts de marché des autres. Il faut être le plus riche possible. Et pour jouer avant les autres, on est des grands managers à cette table. À partir de 10 ans, hein, ça marche. Et on va devoir jouer sur l'attractivité de notre réseau. Pour ça, on peut jouer sur les prix. Plus on va baisser les prix, plus on va attirer les clients. Mais attention, baisse des prix, baisse des revenus. Il ne faut pas oublier de payer ses salariés à la fin des tours.
Et les payer correctement.
D'accord. J'ai vu des joueurs hier qui, à un moment donné, étaient prêts à ne pas les payer pour gagner. Vous voyez comment ça rend. C'est pas bien. Et on peut jouer sur la publicité. Si on paye de la publicité, on va augmenter notre attractivité parce qu'on va être visible. Et on peut investir dans la technologie, la 2G, la 3G, pour rendre notre réseau plus attractif. Donc c'est un jeu, on est un petit peu à la tête d'une entreprise. On est à la tête d'une entreprise, en fait, et on se prend pour un grand patron. On prend le marché et ça révèle en nous des choses. Voilà, on veut capturer des marchés, on veut être riche et ça tourne plutôt bien. Et pareil, il y a eu des cris autour de la table, là.
D'accord.
Hier. Donc c'est ce que je cherche à faire, des jeux qui provoquent l'ambiance.
Eh ben, merci pour toutes ces infos et puis bonne journée à la pompe.
Et voilà pour la première partie de ce reportage sur le Floracopoli. Merci beaucoup à toi Jacqueline, on est de retour en plateau, vous êtes bien sur Radio Bartas, nous sommes en direct et m'ont rejoint en studio Léa Jartou, bonjour.
Bonjour.
Tu es assistante de vie associative et chargée de communication au sein de l'Union départementale des affaires familiales, l'UDAF, et Stéphane Espinasse, bonjour Steph.
Bonjour.
Toi, tu es à la co-direction de l'UDAF. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Malone est encore avec moi au studio. Si jamais tu as des questions, t'hésites pas.
Ça marche.
Alors, quand j'ai commencé à préparer cet entretien, j'ai fait un peu comme d'habitude, mes recherches tranquilles, peinards, et waouh, j'ai été impressionné par le nombre de choses que vous faites, par le nombre d'assos adhérentes à l'UDAF, pas moins de 25, par le nombre de familles que vous pouvez soutenir, bref. En plus de 5 ans sur cette radio, je me suis demandé par où j'allais commencer cet entretien, et si j'allais pas me perdre dans mon interview. J'ai donc fait les choses dans l'ordre, et s'il manque quelque chose à la fin, bah vous le rajoutez sans problème. On y va simplement par la contextualisation. En quelques mots, Léo, c'est mon collègue, bonjour Léo. En quelques mots Léa, sans entrer trop dans les détails, hein, c'est quoi le rôle principal de l'Union départementale ?
Alors l'Union départementale des associations familiales, c'est donc une association qui regroupe 25 associations familiales sur le département. Et son but principal, c'est de proposer des services à destination des familles et de fédérer les familles du département.
Toute une mission incroyable. Alors comment est organisée la structure de l'UDAF ? Vous êtes une trentaine de personnes à travailler ?
C'est ça, on est une trentaine de salariés dispatchés entre deux sites, le siège de Mende et l'antenne de Marvejols.
Pas d'antenne à Florac. Il faudrait ouvrir
peut-être
ça.
Peut-être un jour.
Croisons les doigts. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes une plateforme, un porte-parole pour les familles. Et qui dit union dit association. Vous avez 25 associations adhérentes à l'UDAF.
C'est ça.
Ça peut aller des ADMR en passant par des assos spécialisées dans le handicap, entre autres. Est-ce que votre rôle, c'est d'amener les familles vers des assos spécialisées en fonction de leurs besoins ? Est-ce que ces assos vous aident à accomplir vos missions ? Comment ça se passe concrètement ?
Ça se passe dans les deux sens. On peut amener des nouveaux adhérents vers les associations familiales si on estime qu'on peut les diriger en fonction de leurs besoins. Mmh. Et on construit des services et des ateliers avec les associations adhérentes.
Mmh. Et toi Léa, si j'ai bien compris, l'une de tes missions, ça va être d'animer tout ce réseau. Bah, plus simplement, en fait, c'est quoi ton rôle dans l'UDAF ?
C'est ça, c'est l'animation de la vie associative, donc créer des liens ou recréer des liens avec les associations adhérentes, développer des services en partenariat avec ces associations-là, les fidéliser et faire toute la communication autour des services de l'UDAF.
Est-ce que vous recherchez d'autres assos pour adhérer, entre guillemets, pour faire grossir votre réseau ?
Alors oui, on sera toujours à la recherche de nouvelles associations. Après, il faut bien avoir le statut spécifique d'association familiale. Donc c'est vraiment propre au code de l'action sociale et des familles. Mais oui, effectivement, on cherche.
Alors, vous avez, selon votre site, 1789 familles adhérentes.
C'était en 2022.
Ouais. En 2022, ouais. Donc, c'était il y a 2 ans. Quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier de vos services ? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs ?
Pour bénéficier de nos services, non, il n'y a pas de critère d'éligibilité. C'est ouvert à tout le monde, sans condition de revenu, de quoi que ce soit. C'est vraiment inconditionnel.
Quels sont les problèmes les plus récurrents, entre guillemets, que vous pouvez avoir
Alors, on a un service spécifique qui est propre en mesures de protection. Donc là, c'est vraiment très particulier. C'est les mesures de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mesures ad hoc. Donc ça, c'est vraiment particulier. Mmh. Et après, on fait beaucoup d'accompagnement budgétaire. On a un service de microcrédit et on fait de l'accompagnement budgétaire.
Est-ce que c'est simple pour les familles de pousser votre porte sachant que peut-être des fois, quand on est un peu à la dèche, si je puis me permettre l'expression ou quoi, il y a peut-être un sentiment de honte, de peur, d'angoisse. Est-ce que c'est simple pour les familles de venir ?
Je ne pense pas que ça soit simple et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à dissocier l'image de la tutelle et de la curatelle de tous les autres services qu'on peut proposer. Et pour l'instant, dans l'imaginaire des gens, l'UDAF, c'est vraiment la mesure de protection ou alors on nous confond avec l'URSSAF, donc c'est vraiment très institutionnel et c'est pas facile de franchir la porte de l'UDAF.
Oh, j'avais même pas pensé, UDAF, URSSAF, ouais.
Ça arrive.
Alors vous avez 24 représentants familiaux bénévoles, est-ce que ce sont des personnes qui connaissent les problèmes que peuvent rencontrer d'autres familles, qui ont bénéficié de votre structure, ou alors est-ce que ce sont simplement des personnes qui veulent aider ?
Non, les représentants familiaux, c'est à la base des personnes qui sont dans les associations familiales en fait. Donc c'est notre conseil d'administration par exemple, il est composé de membres des associations familiales adhérentes. Donc il faut passer par l'association familiale pour rentrer dans les représentations de l'UDAF.
Et c'est pareil, vous en cherchez encore ou alors
on en cherchera toujours.
Vos statuts n'ont pas de nombre maximum.
On est loin du nombre, donc il n'y a pas de problème s'il faut... C'est toujours dur de recruter des bénévoles et je pense que les gens ont de moins en moins de temps à consacrer au bénévolat et peut-être ils trouvent moins d'intérêt. Donc
c'est dans toutes les associations le même problème. Violences faites aux femmes, aux enfants, elles existent aussi malheureusement en Lozère. Est-ce que c'est une réalité à laquelle vous êtes également confrontés ou alors
non, parce qu'il y a le CIDFF sur le département qui est là pour ça. Reçu, ouais. Voilà. Donc on ne s'occupe pas de cette mission-là.
Vous avez également, j'ai lu, 123 mandats de représentation des instances départementales. Alors, on ne va pas citer les 123, hein, ça nous prendra un peu trop de temps, ça risque d'être long. Mais en quelques mots, ça veut dire quoi ?
Alors, ça veut dire que nos représentants familiaux, ils vont siéger dans des instances au niveau de l'éducation, au niveau de la citoyenneté, de l'habitat, du logement, de toutes les problématiques que peuvent rencontrer les familles au quotidien et dans tous les domaines que rencontrent les familles au quotidien.
Ça veut dire que vous avez, entre guillemets, si je comprends bien, un pouvoir décisionnel dans... Enfin, en tout cas, que vous pouvez participer à des décisions prises dans les conseils d'administration, c'est ça.
Et toujours en faveur des familles.
J'ai bien compris. Quels sont les défis actuels auxquels l'UDAF est confronté et quelles sont les stratégies, entre guillemets, pour essayer de les relever ?
Alors, les stratégies, mon poste en fait partie, c'est vraiment de développer des nouveaux services et d'essayer de comprendre vraiment les besoins des associations, les besoins des personnes, pardon. Mm-hmm. En ce moment-là, on a lancé une enquête sur la parentalité, par exemple, qui est destinée à tous les parents, prioritairement aux parents d'enfants en bas âge, pour développer des ateliers de parentalité spécifiques aux besoins des personnes. Parce qu'on sait qu'en Lozère, il y a très peu de choses qui existent et le but, c'est de développer de plus en plus de choses.
Naître et grandir, par exemple, font plein d'ateliers par enfant. Est-ce que vous travaillez avec eux ?
Très peu pour l'instant, mais c'est dans mes objectifs d'essayer de travailler avec eux.
Ah, les amis de Naître et grandir, j'espère que le message est passé. Je sais qu'elles nous écoutent, en tout cas. Quelles sont vos actualités, là ? Tu viens de parler de l'enquête. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a des gros projets qui arrivent pour cette année 2024 ?
Alors, on a des partenariats qui vont se développer en 2024. J'en parle pas pour l'instant, mais on en a qui vont se développer. Par contre, on a mis en place les ateliers parentalité. C'est quelque chose de tout nouveau, donc on va en développer normalement dans les prochains mois sur de nouveaux thèmes. On a développé en 2023 le microcrédit à taux zéro, donc pour que justement les frais liés au prêt ne soient pas un frein à l'octroi de ce crédit-là. Et voilà, on ne s'arrête pas là et on va développer.
Microcrédit, ça va concerner quoi ? L'achat d'une maison ou
le microcrédit, c'est bien spécifique. Donc, à la base, c'est pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit classique dans le système bancaire normal, on va dire. Donc, c'est pour financer des besoins de mobilité, des soins qui seraient trop onéreux, pour financer de la formation, un permis de conduire, voilà. C'est bien spécifique, mais ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont exclues du système bancaire.
Qui peut aller jusqu'à une somme de combien ? 2-3 000 euros ?
8 000 euros, je crois.
8 000 euros quand même,
ouais. Il me semble.
8 000, ouais.
C'est le directeur qui confirme.
Non, c'est pas directeur, c'est adjoint direction.
Adjoint direction. C'est important de le souligner. Oui, oui. Je suppose que la plus grande partie de vos financements vient de l'État. Est-ce que vous avez les moyens pour accomplir vos missions? Est-ce que ça peut encore être amélioré? Bref, concrètement...
Je pense que ça peut toujours être amélioré, mais oui, effectivement, la plupart de nos moyens viennent de l'État. Nous, on est rattachés au niveau régional à l'URAF et au niveau national à l'UNAF. L'UNAF, donc ouais. On a des financements qui viennent de l'UNAF. Et voilà, grâce à ces financements-là, on peut développer des actions bien particulières. Et... Mais forcément, il en faut toujours plus.
Ouais. J'avais vu au niveau national, c'est, je crois, 8 millions de familles qui sont concernées par 1700 familles en Lozère. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui viennent pas ou
Alors, nous, quand on compte les 1789 familles, c'est les familles adhérentes aux associations familiales. Et c'est bien spécifique parce que pour être considéré comme une famille, c'est le code de l'action sociale et des familles qui définit la famille. Et il faut être soit marié, soit pacsé, soit être un couple avec un enfant. Une personne célibataire ne compte pas comme une famille dans nos statuts. Mais ça change pas le fait qu'on accueille tout le monde et qu'on soit pas du tout fermé aux personnes célibataires.
Un couple en union libre, par exemple, n'est pas considéré comme une famille.
S'il n'a pas d'enfant, non.
Mmh, c'est tout à fait clair. En tout cas, c'est vrai que définir la famille, finalement, on aurait pu commencer par ça.
Il y a beaucoup de définition de la famille, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à celle-là parce qu'elle n'est clairement pas représentative. Enfin, deux personnes en union libre font autant famille que deux personnes avec un enfant.
Aujourd'hui, est-ce que toutes les associations, là, les 25 assos, ont les moyens de travailler pareil que l'UDAF ou alors est-ce que c'est un peu galère? Comment ça se passe? Quels sont les contacts que vous avez, les retours que vous pouvez avoir d'eux?
Alors non, les associations familiales qui constituent l'UDAF, c'est des petites associations. C'est pas comparable à l'UDAF, qui est une beaucoup plus grosse association, et puis qui est au niveau régional et au niveau national. Mais chacune a ses propres moyens et chacune développe ce qu'elle peut en fonction de ses moyens. Et nous, on est là pour les aider, pour les soutenir, et parfois financièrement, parfois sur d'autres types d'actions, mais on les soutient autant qu'on peut.
Parce que ces assos, elles peuvent venir et vous demander une subvention pour, si jamais elles montent un dossier, un projet, ça se passe comment? Alors
ben, si elles ont un projet bien spécifique, elles peuvent nous le présenter. Nous, notre conseil d'administration après prend la décision d'aider ou non l'association en fonction du projet qu'elle défend. Après, on peut leur mettre à disposition des locaux. Nos nouveaux bâtiments, en fait, sont constitués de la maison des familles. Donc cette salle, elle est vraiment dédiée aux associations. Et le but, c'est d'en faire profiter nos associations adhérentes. Et ça se développe très bien. Donc voilà, le but c'est de le développer encore plus.
Ça c'est Amandes, hein, les nouveaux locaux, c'est ça
Amandes, oui.
Donc, et à Marvejols, vous êtes situé où à peu près?
On est au 5 rue du Stade.
Et ça, par contre, c'est une plus ancienne structure là,
c'est une plus ancienne structure, mais par contre, on a toute une partie du bâtiment qui est mise à disposition de l'association familiale de Marvejols pour les ateliers couture, par exemple, ou ce genre de choses, et qui y vont très régulièrement et qui apprécient ce service.
Je parle à vous deux, là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous installiez à Florac? C'est quoi? C'est une décision politique? C'est vous, une décision? Comment ça pourrait se passer?
Alors, est-ce que ça aurait du sens de s'installer à Florac dans la mesure où, en fait, l'UDAF a un rayonnement départemental? L'intérêt d'avoir une antenne, par exemple, à Marvejols, c'est, comme le rappelait Léa, c'est on a un service de protection judiciaire des majeurs. On sait que le bassin de Marvejols est un bassin important en termes de services ou d'établissements médico-sociaux. Donc, pour nous, c'était pour se rapprocher, en fait, des personnes qui sont sous mesure de protection et nous permettre d'être plus efficaces. On vient, de toute façon, l'UDAF vient très, très régulièrement à Florac, puisqu'il y a des permanences qui sont faites pour le point de conseil budget ou le microcrédit. Alors, à des moments réguliers, j'ai pas les dates.
Tous les jeudis matin.
Ouais.
Ça, c'est à la Maison France Service.
À la Maison France Service, voilà. De Florac, oui.
Ouais, donc il y a quand même un lien entre Florac et Mende, quoi qu'il arrive.
Il y a un lien entre Florac et Mende. Et très récemment, on a rencontré par exemple La Pompe pour voir un petit peu comment on pourrait envisager des partenariats. Voilà.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est se servir aussi des assos et des tiers-lieux ici pour que vous puissiez rayonner encore plus.
Oui, alors. C'est un levier d'action pour le territoire, l'UDAF, en fait, en tout cas pour les familles du territoire. Et nous, ce qu'on va rechercher, c'est comment être le plus efficace possible avec l'UDAF. Ça dépend, en fait, de notre capacité à intéresser les gens à ce qu'on fait et à les impliquer pour être efficace sur le territoire. C'est-à-dire que quand on parle des représentations, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Léa, quand on parle des représentations, on va porter, en fait, la voix de l'UDAF, mais ce n'est pas la voix de l'UDAF, c'est la voix des familles lozériennes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, plus les gens s'impliqueront dedans, et plus on aura de poids, nous aussi, au niveau des représentations qu'on a.
La petite enfance aussi, ça doit être un sérieux problème, entre guillemets, place en crèche, etc. C'est toujours un débat. Comment vous intervenez aussi là-dessus?
Alors, nous, on a un service spécifique qui est le relais petite enfance, qui avant s'appelait le relais assistante maternelle, en fait, qui est composé d'éducatrices jeunes enfants, qui met en relation, en fait, toutes les assistantes maternelles du département avec les parents en recherche de mode de garde, qui les aident à faire les contrats, qui les aident dans leurs soucis juridiques, qui leur expliquent comment faire des bulletins de salaire, tout ça. Et qui font, elles sont itinérantes et elles font de l'animation sur tout le département. Donc elles se déplacent et elles animent en fait un réseau d'assistantes maternelles, elles développent des ateliers et tout ça.
Ouais, c'est génial. Le plus complexe dans ton travail, toi Léa, c'est...
Alors le plus complexe, c'est d'être partout. C'est d'être partout parce qu'on est sur un territoire qui est assez vaste, avec beaucoup de temps de trajet entre toutes nos associations et trouver le temps d'axer mon travail sur la vie associative, mais aussi sur la communication parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, mais on va y arriver.
Et pour toi, Stéphane, sachant que toi, tu as pris ton poste, entre guillemets, fin d'année dernière, c'est quoi le plus complexe aujourd'hui dans...
On ne va pas parler de complexité, c'est normal en fait, c'est-à-dire que dans la mesure où on développe énormément de services, ça veut dire les connaître un peu mieux, savoir en fait ce qu'il en sort, quels sont les enjeux derrière chaque service, et puis c'est élargir le champ d'action que j'avais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant je travaillais essentiellement sur la démarche qualité, protection des données archives, et maintenant on est sur innovation et développement, et pour le coup c'est rechercher en fait des services à monter qui pourraient être utiles.
Et entre les différents pôles, est-ce que il y a une bonne communication ou est-ce que ça aussi vous pouvez l'améliorer? Comment
tu veux
ça
dire
se passe
entre les différents pôles?
Entre les différentes missions, je suppose qu'une personne s'occupe d'une mission ou.
Concrètement, tu demandes si c'est compliqué de travailler avec Léa, c'est ça?
J'espère pas.
Non, c'est pas compliqué.
Est-ce que dans l'interne, vous communiquez par exemple, telle famille, allez plus vous adresser à mon ou ma collègue, est-ce que ça se passe comme ça ou alors...
Alors très clairement, il y a un accueil général amende où au téléphone, les gens ils appellent, ils vont être orientés en fait vers la bonne personne. Et l'accueil, il est inconditionnel, comme l'a rappelé Léa tout à l'heure.
Après, j'ai aussi inclus ça dans ma mission de favoriser la communication entre toutes les personnes qui travaillent au sein de l'UDAF et l'extérieur.
C'est ça, 30 personnes qui bossent au sein de l'UDAF, plus 25 personnes, plus 25 associations, plus 1700 familles, etc.
Il y a beaucoup de liens à faire en fait entre tout le monde et je pense qu'on n'y arrive pas trop mal.
Et on ne va pas oublier le conseil d'administration qui est très présent et on va dire très dynamique.
Et ça, vous le renouvelez tous les ans ou c'est des mandats comme ici, 3 ans?
Il se renouvelle par moitié tous les 2 ans. Donc là, cette année, on a une assemblée générale élective. Et l'année dernière, notre AG était à Florac.
Ah oui, comme quoi, vous implantez tout doucement dans le territoire.
Et où était Radio Barthas à ce moment-là?
Mais où était-il? Mais regarde, la radio est là aujourd'hui, c'est déjà pas mal. C'est comme Léa, si on pouvait être partout, ce serait génial. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait rajouter, qu'on aurait oubliées?
Non, après, je m'adresse à tout le monde, mais pour toute personne qui a une question d'ordre général, budgétaire, du domaine de la petite enfance, problème de voisinage, ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à nous contacter. On a un site internet, on est présent sur Facebook, LinkedIn, X.
Et le fameux.
Voilà, le fameux X. Et voilà, on est disponible par téléphone, par mail.
Peut-être qu'on peut rappeler aux gens en fait tout ce qu'on fait parce que les gens ne mesurent pas tout ce qu'on fait. Ils peuvent déjà aller sur le site, udaf48.fr, pour voir en fait tout ce qu'on propose comme service. Mais c'est au-delà de la protection judiciaire des majeurs, on a de l'aide à la gestion du budget familial. On peut faire du microcrédit, du point de conseil budget. On a des ateliers parentalité. On propose par exemple des séjours pour des seniors, donc des vacances en fait pour des gens qui ont peu de moyens et qui n'ont pas l'habitude de partir. Donc c'est l'UDAF qui monte le projet, qui va chercher des financements, qui finance aussi lui-même une part du voyage et tout, mais pour permettre à des gens qui ne sont jamais partis de partir en vacances. On a un secrétariat de la médaille de l'enfance et des familles aussi.
De la médaille ?
Médaille de l'enfance et des familles. Médaille de la famille, en fait, c'est plus connu sous ce terme-là.
Ah, je ne connais pas du tout.
Vas-y, va.
Alors, c'est assez spécifique, mais c'est un titre honorifique, on va dire, qui peut être donné à des personnes qui ont élevé un certain nombre d'enfants et qui ont accompli de grandes choses dans leur vie. De toute façon, élever des enfants, c'est une grande chose.
Je pense, dès le premier, ça doit être assez énorme.
Mais voilà, c'est quelque chose d'honorifique et il me semble que c'est à partir de 3 enfants, si je ne dis pas de bêtises. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Je n'ai pas toutes les billes aujourd'hui.
Je vais en parler à ma mère. Celle a bien du mérite, je vous le dis.
Elles en ont toutes.
Tu m'étonnes.
Du coup, je continue parce qu'on n'a pas fini.
Avec plaisir, vas-y.
Donc, on fait aussi de l'information et du soutien aux tuteurs familiaux. Donc ça, c'est les gens en fait, qui vont s'occuper d'une d'un proche qui est sous mesure de protection et qui vont avoir la charge de la mesure de protection. On peut, nous, les conseiller, les aider, leur donner des indications sur la façon de mener une mesure de protection. Et puis après, on gère aussi des mesures d'accompagnement social personnalisé qui nous sont déléguées par le conseil départemental.
Ça, c'est le conseil départemental qui vous envoie...
Sur les mesures d'accompagnement social personnalisé, oui.
Et vous, comment ils les localisent un peu, vous savez ça?
Aucune idée. En fait, c'est des mesures sociales, en fait, ouais, dont ils ont la charge. Et comme ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde, il y a des moments où ils vont déléguer à des prestataires, entre guillemets, enfin, à d'autres personnes. Et nous, on est un des acteurs des MAS, mais on n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et la plupart des associations tutélaires le font en Lozère.
Pour vous contacter, c'est assez simple, hein, le site est bien fait, udaf.fr, il y a absolument tout ce que vous faites, les numéros de téléphone, enfin il y a tout vraiment, c'est
UDAF48,
c'est vrai, udaf48.fr. Merci à tous les deux.
Merci.
Léa, tu es assistant de la vie associative et chargée de communication, et Stéphane...
Adjoint de direction,
t'as raison. De l'Union départementale des affaires familiales de Lozère.
Des associations familiales.
Union départementale des associations familiales. C'est tout à fait ça. Voilà, non mais un jour je ferai bien mon travail, hein, ça viendra. Bonne continuation et on reparlera de votre structure sur cette antenne, c'est sûr. Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. Et Steph, on n'avait pas se quitter sans un bon petit morceau d'harmonica quand même. Je te propose Martial Solal au piano et Toots Thielemans à l'harmonica. Bon choix ou
Thielemans, ouais, très très bon choix.
Body and Soul. Auditeurs, auditrices, je vous souhaite une excellente journée. Restez bien sur Bartas. Bonne fin de semaine. Ciao.